Chapitre 6. Jour sombre. C'est le roi Iod qui occupait le trône du royaume des montagnes à l'époque de la guerre contre les pirates rouges. La mort de son fils aîné, Rurisk, avait laissé sa fille Kétriken unique héritière de la lignée. Selon la coutume, elle devait devenir reine des montagnes, ou Obla, comme on disait là-bas, lorsque son père transmettrait la couronne. Ainsi, son mariage avec Vérité nous assurait non seulement un allié pour protéger nos arrières en ces années d'instabilité, mais aussi l'adjonction à terme d'un septième duché au royaume des six duchés. Le fait que le royaume des montagnes n'eût de frontières communes qu'avec les deux duchés de l'intérieur de Labourg et de Bauges rendait la perspective d'un éclatement des six duchés particulièrement inquiétante pour Kétriken. Elle avait été élevée en tant qu'Obla, et sa responsabilité envers son peuple était pour elle d'une suprême importance. Aussi, quand elle devint la reine servante de Vérité, les sujets des six duchés devinrent son peuple. Mais, au fond de son cœur, elle ne dut jamais oublier qu'à la mort de son père, les montagnards la réclameraient aussi comme Obla. Or, comment remplir cette obligation si Labourg et Bauges se dressaient entre elle et son pays, non en tant que membres des six duchés, mais en tant que nations hostiles? Une forte tempête se déclencha le lendemain, avec ses avantages et ses inconvénients. Nulle incursion n'était à craindre le long de nos côtes par un tel temps, mais, dans le château, des groupes disparates de soldats sur les nerfs vivaient en une promiscuité inconfortable. Béarn était aussi visible que Royal se faisait discret. Chaque fois que je m'aventurais dans la grande salle, le duc Brondy s'y trouvait, en train de faire nerveusement les 100 pas, ou glacé, le regard plongé dans les flammes d'une des cheminées. Ses filles ne le quittaient pas d'une semelle, telles des tigres des neiges chargés de le protéger. Célérité et Félicité étaient encore très jeunes, et leurs visages exprimaient clairement leur impatience et leur colère. Brondy avait sollicité une audience officielle avec le roi, et plus il devait attendre, plus l'importance de sa mission était niée, et plus l'affront s'aggravait. En outre, la présence continuelle du duc dans notre grande salle signalait clairement à toute sa suite que le roi n'avait pas encore consenti à le recevoir. Je voyais la marmite commencer à bouillir, et je me demandais qui serait le plus échaudé lorsqu'elle déborderait. À mon quatrième tour de prudente observation dans la salle, Kétriken fit son apparition. Elle était vêtue avec simplicité d'une longue robe droite de couleur violette, sur laquelle elle avait enfilé une sorte de veste blanc cassé, dont les manches bouffantes lui cachaient à demi les mains. Ses longs cheveux tombaient librement sur ses épaules. Elle se présenta, avec son absence coutumière de cérémonie, précédée de Romarin, sa petite servante, et seulement accompagnée de Dame Pudeur et Espérance. Bien qu'elle eût un peu gagné en popularité auprès des femmes nobles du château, elle n'oubliait pas que ces deux-là avaient été les premières à lui emboîter le pas alors que, jeune mariée, nul ne lui adressait la parole, et elle les honorait souvent en s'en faisant escorter. Je ne crois pas que le duc Brondy reconnut tout de suite sa reine servante dans la femme à la sobre tenue qui l'aborda sans détour. Elle sourit et lui prit la main pour le saluer. C'était le geste simple d'une montagnarde qui accueille ses amis, et je doute qu'elle eût conscience de l'honneur qu'elle lui faisait, ni du baume que son attitude passait sur les heures d'attente qu'il venait de vivre. Je fus le seul, j'en suis certain, à remarquer la lassitude qui tirait les traits de la reine et les cernes récents qui lui creusaient les yeux. Félicité et Célérité furent aussitôt charmées de l'attention qu'elle portait à leur père. La voix claire de Kétriken porta dans toute la grande salle, si bien que même les gens attroupés autour de chacune des trois cheminées, et qui souhaitaient écouter ses paroles, le purent, comme elle l'escomptait. Je me suis rendu à deux reprises chez le roi ce matin, et je regrette de devoir vous dire qu'il était mal portant chaque fois. J'espère que cette attente ne vous aura pas été trop pénible, Je sais que vous voulez discuter directement avec le roi de votre tragédie et de tout ce qui doit être fait pour aider notre peuple. Mais, pendant qu'il se repose, peut-être consentirez-vous à prendre une collation avec moi.
« Avec plaisir, dame reine, »
répondit Béarn, circonspect. Elle avait déjà beaucoup fait pour lisser ses plumes froissées, mais Brondi n'était pas homme à se laisser aisément charmer. « J'en suis ravi, » répondit Kétriken. Elle se pencha de côté pour murmurer quelques mots à l'oreille de Romarin. La petite fille hocha vivement la tête et se sauva comme un lapin. Sa sortie ne passa pas inaperçue. Quelques instants plus tard, elle revint à la tête d'une procession de serviteurs. Une table fut transportée devant le grand âtre, recouvert d'une nappe à la blancheur de neige et enfin ornée en son milieu d'un des jardins en bouteille de Kétriken. Un défilé de gens de cuisine s'ensuivit, qui apportant des assiettes, qui des coupes de vin, des friandises ou un saladier en bois rempli de pommes d'automne. L'ensemble était si merveilleusement orchestré qu'on aurait cru à de la magie. En quelques moments, la table fut dressée, les convives installés, et Velours fit son entrée, chantant déjà et s'accompagnant aux luttes. Kétriken fit signe à ses dames de compagnie de la rejoindre, puis, m'ayant aperçu, m'appela d'un hochement de tête. Enfin choisit au hasard quelques invités parmi les gens rassemblés près des cheminées, non en fonction de leur rang ou de leur fortune, mais selon l'intérêt que je lui savais leur porter. Penn et ses récits de chasse, et Coq, une jeune fille sympathique du même âge que les enfants de Brondi, en firent partie. Kétriken s'assit à la droite du duc, et là encore, je ne crois pas qu'elle se rendit compte de l'honneur qu'elle lui fit. On but, et on mangea légèrement. Puis la reine fit signe à Velours de jouer un peu moins fort. Elle se tourna vers Brondi et déclara simplement « Nous n'avons appris que la trame de ce qui vous est arrivé. Voulez-vous bien nous raconter ce qui s'est passé à Bac ?» Il eut un instant d'hésitation. Il était venu exposer sa plainte au roi afin d'obtenir que le souverain agisse. Mais comment dire non à une reine servante qui le recevait si gracieusement? Il baissa les yeux un court moment, puis d'une voix enrouée par une émotion non feinte. « Madame reine, nous avons été durement touchés. » Chacun à la table se tut aussitôt, et tous les yeux se tournèrent vers lui. Manifestement, les convives choisis par la reine savaient aussi écouter, et lorsqu'il se lança dans son récit, on n'entendit plus un bruit, hormis quelques exclamations étouffées d'apitoiement, ou certains murmures de colère à la description des actes des pirates. Il s'interrompit une fois, puis prit sa décision et narra l'envoi des messages de demande d'aide et la vaine attente d'une réponse. La reine l'écouta de bout en bout, sans émettre la moindre objection ni le moindre déni. Lorsqu'il eut achevé sa triste histoire, le duc parut soulagé, et pendant un long moment, nul ne dit rien. « Votre récit m'en a beaucoup appris, » fit enfin Kétriken à mi-voix. « Et ce ne sont pas de bonnes nouvelles. J'ignore ce que notre roi en dira. Il vous faudra patienter pour entendre ses propres paroles. Mais, pour ma part, et en cet instant, je déclare que mon cœur déborde de chagrin pour mon peuple, et de colère aussi. Je vous promets qu'en ce qui me concerne, le mal qu'on vous a fait ne restera pas sans réparation, et que ceux de mon peuple ne demeureront pas exposés sans abri à la morsure de l'hiver. » Le duc Brondi baissa le regard sur son assiette, joua un instant avec l'ourlet de la nappe, puis il se tourna vers la reine. Il y avait du feu dans ses yeux, mais aussi du regret. Et c'est d'une voix ferme qu'il répondit. Des mots. Ce ne sont que des mots, madame reine. Les gens de Bac ne peuvent se nourrir de mots, ni s'abriter sous eux, quand la nuit tombe. Kétriken soutint son regard sans ciller, et l'on sentit comme un durcissement en elle. « Je ne méconnais pas la vérité de vos paroles, mais je n'ai rien que des mots à vous offrir pour le présent. Quand le roi sera suffisamment remis pour vous recevoir, nous verrons ce qui peut être fait pour Bac. » Brondi se pencha vers elle. « J'ai des questions à poser, ma reine, et j'ai presque autant besoin de réponses
que d'argent et d'hommes. Pourquoi nos appels à l'aide n'ont-ils éveillé aucun écho? Pourquoi le navire qui aurait dû venir à notre secours a-t-il au contraire fait voile vers son port d'attache? À ces questions, je n'ai point de réponse, messire, répondit Ketriken, d'une voix qui tremblait légèrement, et se met une grande honte de l'avouer. Je n'ai eu vent de la situation qu'à l'arrivée de votre jeune cavalier. Ces propos m'inquiétèrent. La reine avait-elle raison de faire cet aveu devant Brondi? La prudence politique l'aurait peut-être déconseillé, mais je savais que Ketriken obéissait à la vérité avant la politique. Brondi la dévisagea longuement, et les rides qui cernaient sa bouche se creusèrent. Avec audace, mais à mi-voix, il demanda « N'êtes-vous pas reine servante ?» Ketriken posa sur lui des yeux d'un gris métallique. « En effet, vous voulez savoir si je mens ?» Brondi détourna le regard. « Non. Non, ma reine, cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. » Un ange passa. J'ignore si Ketriken fit un signal discret ou si Velours suivit simplement son instinct, mais ses doigts se mirent à caresser les cordes plus vigoureusement. Puis il entonna une chanson d'hiver pleine de notes venteuses et d'accords sifflants. Il s'écoula plus de 3 jours avant que Brondi soit enfin convoqué chez le roi. Entre-temps, Ketriken avait tenté de lui procurer des distractions. Mais il est difficile de divertir un homme qui ne songe qu'à la vulnérabilité de son duché. Félicité, sa seconde fille, s'était promptement liée d'amitié avec Coq et paraissait oublier un peu son chagrin en sa compagnie. Célérité, en revanche, ne quittait pas son père, et quand ses yeux d'un bleu profond croisaient les miens, il m'évoquait 2 plaies vives. Ses regards éveillaient en moi des émotions curieusement diverses. J'étais soulagé qu'elle ne chercha pas à attirer particulièrement mon attention, et en même temps, je savais que la froideur dont elle faisait preuve avec moi n'était que le reflet des sentiments de son père envers le château tout entier. J'étais à la fois heureux et ulcéré du mépris qu'elle affichait envers moi, car je ne pensais pas le mériter. Quand la convocation vint enfin et que Brondi se hâta d'y obéir, j'espérais que l'entrevue mettrait fin à cette situation délicate. Je ne fus pas le seul, j'en suis convaincu, à observer que la reine Ketriken ne fut pas conviée à l'entretien. Je n'y fus pas présent non plus, n'étant pas invité. Mais il est rare qu'une reine se voie reléguée au même rang qu'un neveu bâtard. Ketriken demeura pourtant équanime et continua de montrer aux filles de Brondi et à Coq une technique des montagnes pour insérer des perles dans un ouvrage de broderie. Je ne m'éloignais guère de leur table, mais je ne crois pas qu'elles avaient plus que moi la tête aux travaux d'aiguille. L'attente fut brève. Moins d'une heure plus tard, le duc Brondi réapparut dans la grande salle, avec toute la fureur glacée d'une tempête d'hiver. À Félicité, il dit, prépare nos affaires. À Célérité, préviens notre garde qu'elle se tienne prête à partir sur l'heure. Il s'inclina raidement devant la reine Ketriken. Ma reine, pardonnez mon départ. Puisque la maison des loin-voyants refuse son aide, Béarn doit à présent s'occuper des siens.
« Ah, je comprends votre hâte, » répondit gravement Ketriken. « Mais je veux vous demander de partager encore un repas avec moi. Il n'est pas bon de se lancer l'estomac vide dans un voyage. Dites-moi, aimez-vous les jardins ?»
La question s'adressait autant à Béarn qu'à ses filles. Elles regardèrent leur père. Après un moment d'hésitation, il acquiesça sèchement de la tête. Sans s'engager, ses 2 enfants reconnurent apprécier les jardins. Mais leur perplexité était évidente. Un jardin, en hiver, par une tempête hurlante, je partageais leur incompréhension, surtout lorsque Ketriken me fit signe d'approcher. « Fils chevalerie, exécutez mon souhait, je vous prie. Romarin, accompagne messire Fitz Chevalerie aux cuisines, prépare ce qu'il t'ordonnera et apporte-le au jardin de la reine. Je vais y conduire nos hôtes. » Je regardai Ketriken, les yeux écarquillés, en essayant de la prévenir du regard. Non, pas là. La montée jusqu'en haut de la tour pouvait être pénible pour certains,
sans parler de prendre une tasse de thé sur une terrasse battue par l'ouragan. Je n'arrivais pas à comprendre son but, mais le sourire par lequel elle répondit à mon regard angoissé était parfaitement serein. Prenant Brondi par le bras, elle sortit avec lui de la grande salle, suivie des deux filles du duc et des dames de compagnie de la reine. Je me tournai vers Romarin et modifiai ses ordres. Va leur chercher des manteaux épais et rattrape-les. Moi, je m'occupe de leur collation. L'enfant détala joyeusement, tandis que je me rendais rapidement aux cuisines. J'informai brièvement Sarah du désir de la reine, et en un tournement, elle prépara une assiettée de pâtisserie tiède et du vin chaud.
« Prends déjà ça, j'enverrai un garçon en apporter d'autres dans un moment. »
Je souris à part moi en emportant le plateau. La reine elle-même pouvait bien me donner du « Messire Fitz Chevalerie ». Cela n'empêchait pas Sarah, la cuisinière, de me mettre un plateau entre les mains et de m'ordonner sans façon de le transporter ici ou là. C'était curieusement rassurant. Je montai les marches aussi vite que je le pus, puis fis une pause sur le dernier palier pour reprendre mon souffle, me préparer à affronter la pluie et le vent et pousser la porte. Le spectacle était aussi lugubre que je l'avais craint. Les suivantes de la reine, les filles de Brondi et Coq se serraient dans l'abri qu'offrait un angle de mur et une bande de tissu tendue là l'été précédent pour créer un petit coin d'ombre. Elles coupaient le plus gros du vent et de la pluie glaçante. Une petite table se dressait sous ce pitoyable refuge et j'y déposai mon plateau. Romarin, bien emmitouflé, chipa une pâtisserie avec un sourire béat, et Dame Pudeur présida la distribution des friandises. Dès que j'en eus l'occasion, je remplis deux chopes de vin chaud pour la reine et le duc Brondi, et allai me joindre à eux sous prétexte de les servir. Ils étaient tout contre le parapet, et ils contemplaient l'océan par-delà les créneaux. Le vent cinglant transformait l'eau en écume blanche et déroutait les mouettes de ci de là, parfaitement indifférents aux efforts qu'elles faisaient pour voler droit. Comme je m'approchais, je me rendis compte qu'ils parlaient tout bas, mais les rugissements du vent contrariaient toute tentative de surprendre leur conversation. Je regrettais de ne m'être pas muni moi-même d'un manteau. J'étais trempé jusqu'aux os, et la tempête soufflait le peu de chaleur que générait mon corps tremblant. Je leur offris leur chope en essayant de sourire malgré mes dents qui claquaient. « Vous connaissez Messire Fitz Chevalerie ?» demanda Kétriken à Brondi en prenant une des chopes. « En effet, j'ai eu le plaisir de l'avoir à ma table, » répondit Brondi. La pluie dégouttait de ses sourcils broussailleux et le vent faisait claquer sa queue de cheval. « Vous n'auriez donc pas d'objection à ce que je le prie de se mêler à notre conversation ?» Malgré la pluie battante, la reine s'exprimait d'un ton aussi calme que si nous nous tenions sous un chaud soleil printanier. Je me demandais si elle se rendait compte que, pour Brondi, sa requête aurait la force d'un ordre déguisé.
« C'est avec plaisir que j'écouterai ses conseils, si vous le jugez assez sage, ma reine, » répondit Brondi.
« Je l'espérais. Fitz Chevalerie, allez-vous quérir du vin et revenez nous rejoindre, s'il vous plaît. »
« Bien, ma reine. »
Je m'inclinai très bas et me dépêchai d'obéir. Mon contact avec Vérité s'était fait de plus en plus ténu à mesure qu'il s'éloignait. Mais en cet instant, je me sentis frémir de son ardente curiosité. Je revins en hâte auprès de ma reine. « Ce qui est fait, » disait-elle quand j'arrivais à leur côté. « Mais je me désole que nous n'ayons su défendre notre peuple. Cependant, si je ne puis défaire ce qu'ont fait les pirates de la mer, peut-être puis-je au moins aider à le protéger des tempêtes à venir. Je vous prie de prendre ceci, de la main et du cœur de sa reine. » Je notai au passage qu'elle n'avait fait nulle mention du refus d'agir du roi. Je l'observai alors. Ses gestes étaient à la fois dégagés et précis. La mange bouffante qu'elle avait relevée sur son bras dégouttait de pluie. Mais, continuant de la remonter, elle découvrit une résille d'or qui lui prenait tout l'avant-bras, sertie çà et là d'opales sombres des montagnes. J'avais déjà vu de ces pierres, mais jamais de cette taille. Pourtant, elle me tendit son bras afin que je détache le bijou, puis, sans la moindre hésitation, elle retira la résille et tira de son autre manche un petit sac en velours que je tins ouvert pendant qu'elle y faisait glisser les bracelets. Enfin, avec un sourire chaleureux, elle mit le sac dans la main du duc Brondi. « De la part de votre roi servant vérité et de moi-même, » dit-elle à mi-voix. J'eus du mal à résister à l'envie de vérité de se jeter aux pieds de cette femme et de la déclarer bien trop noble pour son insignifiant amour. Brondi, stupéfait, bredouilla des remerciements et jura que pas un sou de ce trésor ne serait gaspillé. De solides maisons se dresseraient à nouveau à Bac, et leurs habitants béniraient la reine de les avoir réchauffées. Je compris soudain pourquoi Kétriken avait choisi le jardin de la reine. C'était un don de la reine, sans aucun rapport avec ce qu'avait pu dire Subtil ou Royal. Le choix du lieu et la manière d'offrir son présent à Brondi ne laissaient pas de place au doute à ce sujet. Elle ne demanda même pas au duc de rester discret sur l'affaire. Cela allait sans dire. Je songeais aux émeraudes cachées dans un coin de mon coffre à vêtements, mais au fond de moi, vérité ne réagit pas, et je l'imitais donc. J'espérais voir un jour vérité lui-même les attacher autour du cou de sa reine. En outre, je ne souhaitais pas amoindrir l'importance du cadeau de Kétriken en y ajoutant un autre de la part d'un bâtard, car c'est ainsi que j'aurais dû le présenter. Non, me dis-je. Que le duc garde seulement en mémoire le don de la reine et sa façon de l'offrir. Brondi détourna les yeux de sa reine pour me regarder. « Madame, vous paraissez tenir ce jeune homme en haute estime pour le mettre ainsi dans la confidence de vos desseins. »
« En effet, répondit Kétriken, il n'a jamais trahi la confiance que j'ai en lui. »
Brondi hocha la tête comme si elle venait de confirmer une impression qu'il avait. Il se permit un petit sourire. Ma fille cadette, c'est vérité, a été quelque peu troublée par une missive reçue de Messire Fitz Chevalerie, d'autant plus que ses grandes sœurs l'avaient ouverte à sa place et y avaient trouvé matière à la taquiner. Mais lorsqu'elle m'a fait part de sa perplexité, je lui ai répondu que bien rare est l'homme qui reconnaît aussi franchement ce que l'on pourrait considérer comme des défauts. Seul un fanfaron se vanterait d'aller sans peur au combat, et je ne placerai pas ma confiance en un individu capable de tuer sans se sentir ensuite le cœur serré. Quant à votre santé, il m'asséna soudain une claque sur l'épaule. Il me semble que cet été à passer à manier l'aviron et la hache vous a fait du bien. Ses yeux de faucon se plantèrent dans les miens. Mon avis sur vous n'a pas varié, Fitz Chevalerie, ni celui de célérité. Je tiens à ce que vous le sachiez. Je répondis par les mots qu'on attendait de moi. Merci, messire. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et je suivis son regard. Au travers des rafales de pluie, je vis célérité qui nous observait. Son père lui adressa un petit hochement de tête. Et le sourire de sa fille apparut tel le soleil qui perce les nuages. Félicité, à côté d'elle, lui murmura quelque chose, et sa jeune sœur lui donna un coup de coude en rougissant. Mes entrailles se glacèrent lorsque Brondi me glissa. « Vous pouvez dire au revoir à ma fille, si vous le désirez. » C'était la dernière de mes envies, mais je ne voulais pas anéantir ce que Kétriken s'était donné tant de peine pour forger. Je m'inclinai donc, pris congé, et la mort dans l'âme, traversai le jardin battu par la pluie pour me présenter devant célérité. Coq et Félicité s'écartèrent aussitôt pour nous observer de loin, et sans grande discrétion, je lui adressai un salut d'une absolue correction. Dame célérité, je dois vous remercier encore une fois du manuscrit que vous m'avez fait parvenir, déclarai-je gauchement. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Comme le sien, certainement, mais pour des raisons tout à fait différentes. Elle me sourit sous la pluie battante.
J'ai eu plaisir à vous l'envoyer, et plus encore à lire votre réponse. Mon père me l'a expliqué. J'espère que vous ne vous froisserez pas de ce que je la lui ai montré, mais je ne comprenais pas pourquoi vous teniez tant à vous rabaisser. Il m'a dit, « L'homme qui doit vanter ses mérites c'est que personne ne le fera à sa place. Et il a ajouté qu'il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre la mer qu'à l'aviron d'un navire, et que dans son jeune temps, la hache était aussi son arme. Il a promis de nous offrir l'été prochain, à mes sœurs et moi, un dory sur lequel nous pourrons sortir les beaux jours.
Elle s'interrompit soudain.
« Je bavarde trop, n'est-ce pas ?»«
Pas du tout, madame, » assurai-je. « Je n'étais que trop heureux de lui laisser faire les frais de la conversation. »
« Madame, »
répéta-t-elle doucement, avant de rougir furieusement comme si je l'avais embrassée devant tout le monde. Je détournai le regard pour découvrir Félicité, les yeux écarquillés posés sur nous, la bouche arrondie en un haut de ravissement scandalisé. Imaginant les propos qu'elle me prêtait, je rougis à mon tour, et elle se mit à glousser, imitée par Coq. Il s'écoula une éternité, me sembla-t-il, avant que nous ne quittions le jardin de la reine battu par la tempête. Nos hôtes gagnèrent leurs appartements pour changer de vêtements et se préparer au voyage de retour. J'en fis autant et m'habillai en hâte afin de ne rien manquer de leur départ, puis me rendis dans la cour extérieure pour voir Brondi et sa garde se mettre en selle. La reine Kétriken était là aussi, parée de ses couleurs désormais familières, blanc et violet, et accompagnée de sa propre garde d'honneur. Elle s'approcha de Brondi pour lui faire ses adieux, et avant de monter à cheval, il mit un genou en terre et lui baisa la main. Ils échangèrent quelques mots, j'ignore lesquels, mais la reine sourit, les cheveux ébouriffés par le vent. Enfin, Brondi s'en alla dans la tempête. On sentait encore de la colère dans le maintien de ses épaules, mais son obéissance à la reine montrait que tout n'était pas perdu. Célérité et Félicité se retournèrent toutes deux vers moi, en s'éloignant, et la punée leva audacieusement la main en signe d'adieu. Je lui rendis son geste, puis les regardai s'en aller, glacés par bien davantage que la pluie. J'avais soutenu les efforts de Kétriken et de Vérité en ce jour, mais à quel prix? Qu'étais-je en train de faire à Célérité? Molly avait-elle raison pour nous deux? Plus tard dans la soirée, j'allais présenter mes respects à mon roi. Il ne m'avait pas fait appeler. Je ne m'y rendais pas non plus pour lui parler de célérité. Et je me demandais si c'était Vérité qui m'y poussait ou mon cœur qui m'interdisait de l'abandonner. Murfès me laissa entrer d'un air mécontent, en m'avertissant que le roi n'était pas encore complètement remis et que je ne devais pas le fatiguer. Le roi subtil était installé dans un fauteuil devant sa cheminée. L'air de la chambre était lourd de l'odeur écœurante de la fumée. Le fou, dont le visage présentait toujours une intéressante composition de pourpre et de bleu, était accroupi au pied du roi et, de ce fait, se trouvait, heureusement, en dessous du niveau le plus âcre de la brume. Je n'eus pas cette chance et dus accepter le tabouret bas que Murfès eut la sollicitude de m'apporter. Quelques instants après que je me fus présenté, puis assis, le roi se tourna vers moi. Il me dévisagea pendant quelques secondes, avec des yeux larmoyants, la tête branlante.
« Ah, Fitz, » dit-il enfin, « comment vont tes leçons? Maître Géropu, est-il satisfait de tes progrès ?»
Je jetai un coup d'œil au fou, qui refusa de croiser mon regard, et continua de tisonner le feu d'un air morose.
« Oui, » répondis-je à mi-voix.
« Il dit que ma calligraphie est bonne. »« Tant mieux. Une main claire. Voilà un talent dont on peut être fier. Et notre marché, en ai-je tenu ma part ?»
De nouveau, notre vieille Antienne. Encore une fois, je réfléchis aux termes qu'il m'avait proposés. Il devait me nourrir, me vêtir et m'instruire, et en retour, je lui devais une loyauté absolue. Les paroles familières me firent sourire, mais ma gorge se serra en songeant à l'état de l'homme qui les prononçait et à ce qu'elles me coûtaient.
« Oui, monseigneur. »«
Très bien. Alors, veille à tenir aussi la tienne. »
Il se laissa aller lourdement contre son dossier.
« Je vous le promets, votre majesté, » dis-je, et le fou leva les yeux vers moi. Il prenait acte du renouvellement de ma promesse. Un moment, ce fut le silence dans la pièce, hormis les crépitements du feu. Puis le roi se redressa soudain, comme surpris par un bruit. Il promena son regard sur la chambre d'un air égaré.
« Vérité ! Où est Vérité ?»«
Il est parti en mission, mon roi, chercher l'aide des anciens afin de chasser les pirates rouges de nos côtes. »
« Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais, espace d'un instant, j'ai cru. »
Il se radossa, et tout à coup les poils se dressèrent sur ma peau. Je le sentais artisé, sans précision, à tâtons. Son esprit tiraillait le mien, comme des mains de vieillard qui cherchent à s'agripper. Je le croyais incapable d'artiser, désormais, tout son talent consumé depuis des années. Vérité m'avait révélé un jour que Subtil ne s'en servait plus que rarement. Mais j'avais mis ses propos sur le compte de sa loyauté envers son père. Pourtant, un fantôme d'art touchait mes pensées, comme des doigts inhabiles les cordes d'une harpe. Je sentis Œil de Nuit se hérisser contre cette nouvelle intrusion. « Silence !» lui transmis-je. Une idée me coupa brusquement la respiration. M'avait-elle été soufflée par Vérité ? Je décidai d'oublier toute prudence, et me répétai que je ne faisais qu'obéir à la promesse faite à cet homme bien des années plus tôt. Loyauté en tout. Tout en rapprochant mon tabouret de son fauteuil, je lui demandai sa permission. « Mon roi ?» Puis, je pris sa main flétrie entre les miennes. J'eus l'impression de plonger dans un torrent.
« Ah ! Vérité, mon garçon, te voici !»
Durant une seconde, j'aperçus Vérité telle que le voyait encore Subtil, comme un garçonnet bouleau de 8 ou 9 ans, plus gentil que brillant, pas aussi grand que son frère aîné Chevalerie, mais un bon petit prince, aimable, excellent second fils, sans trop d'ambition et qui ne posait pas trop de questions. Puis, avec la sensation d'avoir glissé de la berge, je sombrai dans le rugissement noir et impétueux de l'art. Déconcerté, je me rendis compte que je voyais soudain par les yeux de Subtil. Les bords de sa vision étaient brumeux. Un instant, je distinguais Vérité, qui marchait lourdement dans la neige.
« Que se passe-t-il, Fitz ?»
Puis, un tourbillon m'emporta au cœur de la douleur de Subtil, enfoncé tout au fond de lui par l'art, au-delà des parties qu'insensibilisaient les herbes et la fumée, je me retrouvais dans le brasier de sa souffrance. C'était un mal qui grandissait lentement le long de son dos et dans son crâne, un mal toujours présent qui refusait qu'on le nie. Subtil devait se laisser consumer par ce tourment qui ne lui permettait plus de penser, ou bien s'en cacher, en s'engourdissant l'esprit et le corps avec des herbes et de la fumée. Cependant, au fin fond de ce cerveau embrumé, vivait encore un roi qui enrageait de son enfermement. L'esprit était toujours là, aux prises avec un corps qui ne lui obéissait plus, et une douleur qui dévorait les dernières années de sa vie. Je le vis jeune homme, je le jure, peut-être d'un an ou deux plus vieux que moi. Il avait eu les cheveux aussi broussailleux et indisciplinés que Vérité, les yeux grands et pleins de vie, et ses seules rides étaient celles d'un sourire rayonnant. Tel, il était encore, dans son âme, un homme jeune pris au piège et réduit aux abois. Il m'agrippa en me demandant d'un air éperdu.
« Comment sortir de là ?»
Je me sentis sombrer à sa suite. Soudain, comme au confluent de deux fleuves, une autre force me heurta de plein fouet et me fit tournoyer dans son courant. « Mon garçon, maîtrise-toi. » J'eus l'impression que des mains puissantes me saisissaient, m'affermissaient, et faisait de moi un tauron à part, dans la corde agitée de soubresauts que nous formions. « Père, je suis là. Avez-vous besoin d'aide ?»«
Non, non. Tout est comme d'habitude. Mais, vérité. »«
Oui, je suis là. »«
Béarn ne nous est plus royal. Brondy donne asile chez lui à des pirates rouges en échange de l'immunité de ses villages. Il s'est retourné contre nous. »
Quand tu reviendras, il faudra... »
La pensée se fit erratique et perdit sa force.
« Père, d'où tenez-vous ces renseignements ?»
Je perçus le désespoir soudain de vérité. Si ce que disait Subtil était vrai, Castelcerf n'avait aucune chance de passer l'hiver indemne.
« Royal a des espions qui les lui rapportent, et il m'en fait part. La traîtrise de Brondy doit rester secrète en attendant que nous soyons assez forts pour le frapper, ou que nous décidions de l'abandonner à ses amis pirates. Ah oui, tel est le plan de Royal. Tenir les pirates rouges à l'écart de Serre, de façon qu'ils finissent par se retourner contre Brondy et le punissent à notre place. Brondy a même envoyé un faux message de demande d'aide dans l'espoir d'attirer nos vaisseaux vers leur perte.
Est-ce possible ?
Tous les espions de Royal le confirment, et je crains que nous ne puissions plus nous fier à ton épouse étrangère. Pendant le séjour de Brondy ici, Royal a remarqué qu'elle baguenaudait avec lui et trouvait tous les prétextes pour parler en privé avec lui. Il redoute qu'elle ne complote avec nos ennemis pour renverser le trône.
C'est un mensonge!
La force de son démenti me transperça comme la pointe d'une épée, et l'espace d'un instant, je recommençais à me noyer, perdu, hors de moi-même, dans le flot d'art qui passait à travers moi. Vérité s'en rendit compte et me raffermit encore une fois.
Nous devons faire attention au petit. Il n'est pas assez fort pour qu'on l'utilise ainsi, père. Je vous implore de faire confiance à ma reine. Je sais qu'elle n'est pas déloyale, et méfiez-vous de ce que vous racontent les espions de Royal. Placez des espions sur les espions avant d'agir d'après leur dire et consultez Imbre. Promettez-le-moi.
Je ne suis pas stupide, vérité. Je sais comment tenir mon trône.
Très bien. Très bien. Veillez à ce qu'on s'occupe du petit. Il n'est pas formé à ce genre d'exercice.
Quelqu'un ramena brusquement ma main en arrière, comme pour l'écarter d'un fourneau brûlant. Je me pliai mollement en deux, pris de vertige et mis ma tête entre mes genoux. À côté de moi, j'entendais le roi Subtil haleter comme s'il venait de courir. Le fou me plaça de force un verre de vin dans les mains, puis s'occupa de faire boire de petites gorgées de vin au roi. Et tout à coup, la voix de Murfès retentit, irritée.
« Qu'avez-vous fait au roi ? Ce n'est pas seulement le roi qui ne va pas !»
Il y avait de la peur dans la voix du fou.
Ils bavardaient ensemble, très calmement, et soudain c'est arrivé. Emportez ces satanés brûloirs, je crois bien que vous les avez tués tous les deux. Silence, fou! N'accuse pas ma médication de ce qui leur advient.
Mais je perçus de la hâte dans son pas quand il fit le tour de la pièce, pour moucher les mèches des brûloirs ou les recouvrir de coupes de cuivre. Quelques instants plus tard, les fenêtres s'ouvraient grand sur l'air glacé de la nuit. Le froid me remit les idées en place, et je parvins à me redresser et à boire un peu de vin. Peu à peu, mes sens me revinrent. Malgré tout, j'étais encore assis, quand Royal entra d'un air agité en exigeant de savoir ce qui s'était passé. C'est à moi qu'il posa la question, car le fou et Murfès s'affairaient à étendre le roi dans son lit. En réponse, je secouai vaguement la tête. Mon abrutissement n'était pas pure comédie.
« Comment va le roi ? Va-t-il se remettre ? »
demanda-t-il à Murfès.
L'intéressé se précipita auprès de Royal.
« Il semble se reprendre, prince. J'ignore ce qui lui a pris. Je n'ai pas vu signe de lutte, mais il est aussi fatigué que s'il venait de faire une course. Sa santé ne peut supporter de tels énervements, mon prince. »
Royal me regarda comme s'il me jaugeait.
« Qu'as-tu fait à mon père ? » gronda-t-il.
« Moi ? Rien. » C'était la vérité. Ce qui s'était passé avait été causé par le roi, et vérité. Nous parlions tranquillement, quand je me suis soudain senti accablé, pris de tournis en faiblesse, comme si je perdais conscience. Je me tournai vers Murfès. Cela pourrait-il venir de la fumée ?
Peut-être,
concéda-t-il. Il croisa d'un air inquiet le regard brusquement assombri de Royal.
Chaque jour,
Je dois augmenter la dose pour qu'elle fasse effet, et il se plaint encore de...
Silence !
Rugit Royal. Il me désigna d'un geste méprisant, comme il eût montré un rebut.
Fais-le sortir d'ici, puis reviens t'occuper du roi.
À cet instant, Subtil gémit dans son sommeil, et je sentis à nouveau l'infime frôlement de lard sur mes sens. J'en eus la chair de poule.
Non, occupe-toi plutôt du roi dès maintenant, Murfès. Fou, emmène le bâtard, et veille à ce que les serviteurs ne parlent pas de cette affaire. Si tu me désobéis, je le saurai. Dépêche-toi, mon père n'est pas bien.
Je m'imaginais pouvoir me lever et m'en aller seul, mais je m'aperçus bien vite qu'il me fallait l'aide du fou, au moins pour me mettre debout. Puis je me mis en route d'un pas vacillant, avec la sensation d'être monté sur des échasses. Les murs avançaient et reculaient sans cesse. Le sol tanguait comme le pont d'un bateau sous une lente houle.
« Je peux me débrouiller maintenant, »
dis-je au fou, quand nous fûmes dans le couloir. Il fit non de la tête.
« Tu es trop vulnérable pour rester seul en ce moment, »
me souffla-t-il, avant de glisser son bras sous le mien et de se lancer dans un discours sans queue ni tête. Il mit tout son talent de comédien à m'aider avec sollicitude à monter les marches, puis à gagner ma porte. Là, sans cesser de bavarder, il attendit que je la déverrouille, puis il la franchit à ma suite.
« Je te dis que je vais bien, »
fis-je non sans agacement. « Me coucher, voilà tout ce que je désirais. »
« Ah oui, et mon roi, que lui as-tu fait ?»«
Je ne lui ai rien fait, » m'exclamai-je d'une voix rauque en m'asseyant au pied de mon lit. La migraine commençait à me marteler les tempes. Ce qu'il m'aurait fallu, c'était du thé à l'écorce elfique, mais je n'en avais pas.
« Si, tu lui as demandé sa permission, puis tu lui as pris la main, et la seconde d'après, vous haletiez la bouche ouverte comme deux poissons hors de l'eau. »
« Une seconde seulement. » J'avais eu l'impression que ça avait duré des heures, toute la soirée.
« 3 battements de cœur, pas plus !»
Oh. Je portais les mains à ma tête et m'efforçais de rassembler mon crâne en un seul morceau. Pourquoi fallait-il que Burik soit absent justement maintenant? Il m'aurait fourni de l'écorce elfique. La douleur était telle qu'il fallait que je coure un risque.
« As-tu de l'écorce elfique ?»«
Pour les infusions. »
« Sur moi ?»« Non, mais je pourrais en demander à Brodette. Elle a une réserve entière de plantes de toutes sortes. »«
Tu veux bien y aller ?»«
Qu'as-tu fait au roi ?»
Le marché était sans équivoque. La migraine qui montait menaçait de m'exorbiter les yeux.
« Rien, »
répondis-je, dans un hoquet de souffrance.
« Quant à ce qu'il m'a fait, lui, c'est à lui de le dire, s'il le veut bien. C'est assez clair pour toi. »
Silence.
« Peut-être. Tu souffres à ce point ?»
Je m'allongeai avec précaution. Même poser la tête sur l'oreiller me fit mal.
« Je reviens tout de suite, »
dit-il. J'entendis la porte s'ouvrir, puis se refermer. Je demeurai immobile, les yeux clos. Peu à peu, le sens de l'échange auquel j'avais assisté émergea dans mon esprit, et malgré ma souffrance, je triais ce que j'avais appris. Royal avait des espions, du moins, le prétendait-il. Brondy était un traître, du moins, était-ce ce que Royal disait tenir de ses espions. Pour ma part, je soupçonnais Brondy d'être à peu près aussi déloyal que Kétriken.
Ah, oh, quel poison sournois!
Et la douleur. Je m'étais soudain rappelé la douleur. Imbre ne m'avait-il pas conseillé, pour trouver la réponse à ma question, d'observer simplement comme il m'avait enseigné à le faire. Et la réponse, elle se trouvait sous mon nez, mais ma peur des traîtres, des complots et des poisons m'empêchait de la voir. Le roi Subtil souffrait d'un mal qui le dévorait de l'intérieur. Il se droguait pour endormir la souffrance, pour préserver un petit coin de son esprit, un refuge inaccessible à la douleur. Si l'on m'avait dit cela quelques heures plus tôt, j'aurais éclaté de rire, mais à présent, étendu sur mon lit, m'efforçant de respirer doucement parce que le moindre mouvement déclenchait une vague de souffrance, je comprenais. La douleur, je ne la subissais que depuis quelques minutes, et j'avais déjà envoyé le fou chercher de l'écorce elfique. Une autre pensée me vint soudain. Je savais que ce supplice prendrait fin, que je m'enlèverais libéré demain matin.
Mais si je devais l'affronter à chaque instant, des jours qui me restaient à vivre, avec la certitude qu'il dévorerait les heures qui m'étaient dévolues, pas étonnant que Subtil se drogue en permanence. J'entendis à nouveau la porte s'ouvrir et se refermer doucement. Puis, guettant en vain les bruits du fou en train de préparer l'infusion, je fis l'effort d'ouvrir les yeux. Justin et Sereine se tenaient devant mon nuit, tendus, figés, comme s'ils se trouvaient dans le repère de quelque bête féroce. Comme je tournais légèrement la tête pour mieux les voir, Sereine retroussa les lèvres, mon rictus mauvais, et en moi, œil de nuit en fit autant. Mon cœur se mit tout à coup à battre la chamade. Danger. J'essayais de détendre mes muscles, de m'apprêter à réagir, mais la douleur qui me martelait le crâne ne me permettait que de rester immobile.
« Je ne vous ai pas entendu frapper, » dis-je avec difficulté.
Chaque mot était comme une lame chauffée au rouge qui résonnait dans ma tête.
« Je n'ai pas frappé, »
répondit Sereine sèchement. Sa façon de détacher les mots me fit l'effet d'un coup d'assommoir. Je formais le vœu qu'elle ne se rendît pas compte du pouvoir qu'elle avait sur moi en cet instant, et aussi que le fou revint vite. Je tentais de prendre l'air désinvolte, comme si je restais au lit parce que je n'attachais nulle importance à sa présence chez moi.
« Tu as besoin de quelque chose ?»
J'avais parlé d'un ton apparemment brusque, mais en réalité, chaque parole me demandait trop d'efforts pour que je gaspille ma salive.
« De ta part, jamais !»
répondit Sereine avec dérision. Je sentis un contact d'art maladroit. C'était Justin qui me touchait à tâtons. Je ne pus réprimer un frisson. L'usage que mon roi avait fait de moi m'avait laissé l'esprit aussi sensible qu'une plaie à vif, et l'art inhabile de Justin m'écorchait le cerveau comme les griffes d'un chat. « Protège-toi. » Le message de vérité était à peine un murmure. Je fis un effort pour dresser ma garde, mais n'y parvins pas. Sereine souriait. Justin se frayait un chemin dans mon esprit avec la délicatesse du boulanger qui pétrit la pâte. Mes sens s'embrouillèrent soudain. Il puait dans ma tête. Il était d'un horrible jaune verdâtre de décomposition, et il sonnait comme un cliquetis d'éperon.
« Protège-toi !»
me suppliait Vérité. Sa voix était désespérée, sans force, et je savais qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir les lambeaux de ma personnalité en un seul morceau.
« Il va te tuer par pure bêtise. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. Aidez-moi. »
Mais de vérité, plus rien. Notre lien s'évanouissait comme parfum au vent à mesure que mes forces déclinaient.
« Nous sommes de la même meute !»
Justin fut projeté contre la porte avec une telle force que sa tête rebondit contre le bois. Il avait été plus que repoussé. Je ne trouvais pas de mots pour décrire ce qu'œil de nuit avait fait à Justin de l'intérieur de son esprit. C'était une magie hybride. Œil de nuit se servait du vif en passant par le pont qu'avait créé l'art, et il attaquait le corps de Justin depuis l'esprit de Justin. L'artiseur porta soudain les mains à sa gorge pour écarter des mâchoires insaisissables. Des griffes entaillèrent sa peau et marquèrent de zébrures rouges sa chair sous sa fine tunique. Le cri de Sereine me transperça comme une épée, et elle se jeta sur Justin pour essayer de l'aider.
« Ne tue pas, ne tue pas, ne tue pas !»
Enfin, œil de nuit m'entendit. Il lâcha Justin et le jeta de côté tel un rat, puis vint se mettre à cheval sur moi pour me protéger. J'avais presque l'impression de le sentir haleter à mon oreille, de percevoir la chaleur de sa fourrure. Sans force pour m'étonner de ce qui s'était produit, je me roulais en boule comme un chiot et m'abritais sous lui. Je savais que nul ne pourrait franchir son rempart.
« Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Mais que s'est-il passé ?»
hurlait Sereine éperdue. Elle avait agrippé Justin par le devant de sa tunique et l'avait relevé. Il y avait des marques livides sur sa gorge et sa poitrine, mais les yeux à peine entr'ouverts, je les vis disparaître rapidement. Et bientôt, il n'y eut plus de traces de l'attaque d'œil de nuit, hormis la tache humide qui s'agrandissait sur le devant de ses chausses. Il ferma les yeux d'un air épuisé, mais Sereine le secoua comme une poupée de chiffon.
« Justin, ouvre les yeux, Justin! Que faites-vous à cet homme ?»
La voix théâtrale du fou pleine d'outrage et d'étonnement, retentit dans ma chambre. Derrière lui, ma porte était grande ouverte. Une servante qui passait, les bras chargés de chemises, jeta un coup d'œil surprise, puis s'arrêta pour contempler la scène. Le petit page qui la suivait, un panier à la main, se dévissa le cou pour mieux voir. Le fou posa par terre le plateau qu'il portait et s'avança chez moi.
« Qu'est-ce que cela signifie ?»«
Il a attaqué Justin !»
fit Sereine entre deux sanglots. L'incrédulité se peignit sur le visage du fou.
« Lui ? Ah, on jugeait par son aspect, il serait incapable de faire du mal à un oreiller. En revanche, je vous ai bien vu vous en prendre à ce garçon. »
Sereine lâcha la chemise de Justin, qui s'effondra comme un tas de charpies. Le fou le contempla avec commisération.
« Mon pauvre ami, essayait-elle de vous forcer à des actes immoraux ?»«
Ne dites pas de bêtises. »
Sereine était outrée.
« C'est lui !»
Et elle pointa le doigt sur moi. Le fou me considéra d'un air solennel.
« C'est une grave accusation !»«
Répondez-moi avec sincérité, bâtard.
Essayait-elle vraiment de vous violer ?»«
Non. »
Ma voix ne cachait rien de ce que je ressentais. Ma nausée, mon épuisement, mon vertige. J'étais en train de dormir. Ils sont entrés sans bruit dans ma chambre et puis... Je fronçai les sourcils et m'interrompis. Je crois que j'ai trop respiré de fumée ce soir.
C'est évident!
Le ton du fou était superbement dédaigneux.
J'ai rarement assisté à un tel étalage de concupiscence.
Le fou se tourna soudain vers le page et la servante, toujours occupés à observer la scène.
Ceci jette la honte sur Castelcerf tout entier. Nos propres artiseurs se conduire ainsi. Je vous somme de n'en souffler mot à personne. Il faut étouffer tous les ragots dans l'œuf.
Puis il se retourna de nouveau vers Sereine et Justin. Béante d'indignation, l'artiseuse était rouge pivoine. Justin, lui, se redressa en position assise à ses pieds et, vacillant, s'accrocha à ses jupes comme un bébé qui essaie de se mettre debout.
« Je n'ai aucun désir pour cet homme !»
dit-elle d'une voix glaciale, en articulant soigneusement. « Et je ne l'ai pas attaqué non plus !»
« Eh bien, quelles que soient vos intentions, vous feriez mieux de les réserver à vos appartements !»
répliqua le fou d'un ton sévère, et sans un autre regard, il reprit son plateau et s'en alla dans le couloir. À la vue de l'écorce elfique qui s'éloignait, je ne pus contenir un gémissement de désespoir, et Sereine pivota aussitôt vers moi, un rictus aux lèvres.
« J'irai au fond de cette affaire !»
gronda-t-elle. Je repris mon souffle.
Mais dans tes appartements, s'il te plaît.
Et j'indiquai la porte d'un doigt tremblant. Elle sortit d'un parageur, Justin dans son sillage et d'un pas plus incertain. La servante et le page s'écartèrent de leur passage d'un air de dégoût. Ma porte était demeurée ouverte et il me fallut faire un immense effort pour me lever et aller la fermer. J'avais l'impression de porter ma tête en équilibre sur mes épaules. Une fois la porte close, je ne cherchais même pas à regagner mon lit. Je me laissais glisser au sol, le dos contre le mur. J'avais la sensation d'avoir été écorché vif.
« Mon frère, es-tu en train de mourir ?»«
Non. Mais j'ai mal.
Repose-toi. Je veille. »
Je suis incapable d'expliquer ce qui se passa ensuite. Je lâchais quelque chose à quoi je m'agrippais depuis toujours, sans m'en rendre compte. Je m'enfonçais dans une obscurité chaude, moelleuse et protectrice, tandis qu'un loup montait la garde par mes propres yeux.